Europe 1, il est 7h.
Tu écoutes la télévision, tu crois que tout est sous contrôle, mais tandis que rien n'est sous contrôle. Et ici, c'est un peu comme ça, à l'italien.
L'inquiétude grandit en Italie, contaminée par le coronavirus. Nous serons avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal, l'une des dernières journalistes présentes dans les zones en quarantaine.
Nous serons en direct également avec le responsable de la fête du citron à Monton, juste à côté de la frontière italienne. Et nous lui demanderons bien sûr quelle est l'ambiance sur place.
Nous reviendrons aussi sur la polémique entre Agnès Buzyn et Anne Hidalgo sur la préparation de Paris à l'arrivée du virus dans la capitale.
Il n'y a pas eu de contact avec la mairie de Paris lorsque j'étais au ministère. Nous avons préparé essentiellement le système de santé et sa résilience.
Dans ce journal, également l'enquête de la rédaction sur la Cour des comptes. Ses recommandations sont-elles efficaces? Utile réponse dans ce journal.
Et puis enfin, les clips vidéo, la nouvelle arme massive de marketing pour les artistes. Nous verrons comment ils s'y prennent avec Angèle Châtelier.
Laisse-moi te chanter.
C'est 7h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Belliard, Carole Ferry.
L'Italie continue à tenter de contenir l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait 7 morts. 11 villes sont toujours en quarantaine dans les régions de Venise et Milan. Bonjour Romain Oquet.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial dans la région de Codogno, c'est la ville d'où tout est parti. Il y a très peu de journalistes sur place, vous êtes l'une des dernières. Et cette nuit, vous avez enfin réussi à quitter la ville, Romane.
Oui, et ça n'a pas été simple. J'ai été bloquée pendant plus d'une demi-heure par des militaires italiens, puisque à l'un des barrages routiers qui ont été dressés autour de la ville, ils ne voulaient pas justement que je sorte de la zone. Des hommes tendus, suspicieux, qui avaient des consignes strictes. Plus personne n'entre ou ne sort de la zone. Tous les accès sont verrouillés. Et pour l'instant, personne ne fait de la résistance. Tout le monde reste sagement à l'intérieur de Codogno.
À quoi un village en quarantaine ?
Eh bien écoutez, la situation est assez étrange puisque vous avez une ville totalement isolée du reste de l'Italie avec à l'extérieur des dizaines de militaires qui empêchent les gens d'entrer ou de sortir. Et puis une fois à l'intérieur, c'est un peu l'anarchie. Aucune consigne, aucune indication affichée nulle part. Il y a des gens qui portent des masques, d'autres pas. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Des gens qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui ont déjà des problèmes d'approvisionnement. Les magasins sont vides, impossible de trouver une bouteille d'eau ou un masque. Les 3 pharmacies ont été prises d'assaut et elles sont en rupture de stock depuis 48 heures. Une gestion qui agace beaucoup d'habitants comme Anna Maria, une professeure de français.
Tu écoutes la télévision, tu crois que tout est sous contrôle, mais tandis que rien n'est sous contrôle. Il y a des personnes, vous voyez là-bas, hein, il y a une avec un masque et l'autre avec sens. Et ici, c'est un peu comme ça, à l'italien. Mais c'est une épreuve pour l'Italie, hein. On doit se réveiller un peu.
En fait, pour la population, le confinement a commencé bien trop tard, puisqu'une semaine avant cette quarantaine, 4000 personnes venues de toute la région étaient réunies dans la ville pour le carnaval, un moyen de propagation idéal pour le virus.
Merci Romain Oquet.
L'Italie qui doit organiser aujourd'hui une réunion avec tous les ministres de la Santé des pays voisins, dont la France, pour tenter de trouver la meilleure arme contre la propagation du virus.
En France, aujourd'hui, plus aucun malade n'est hospitalisé, mais le virus est quand même bien à nos frontières. L'une des villes les plus proches, c'est Menton. Christophe Guéna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du centre technique municipal de Menton, où a lieu en ce moment la fête du citron. C'est quand même 240 000 visiteurs par an, des Italiens hein, sans doute. Il y a eu une réunion hier à la préfecture qui a décidé qu'il n'y aurait aucun contrôle sanitaire à la frontière. Ça vous inquiète ?
Alors écoutez, dans ce cas de figure, il appartient à l'État effectivement de nous donner les indications nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des personnes. Donc effectivement, le préfet était très clair sur la base des indications données par l'ARS et l'OMS. Pour l'instant, aucune mesure particulière n'est mise en œuvre, mais ça c'est à l'instant T. Donc,
oui, j'allais vous le demander parce que pour le moment, il n'est pas prévu du tout d'annuler cette fête qui doit durer jusqu'au 4 mars. Pour l'instant, à l'instant Tenté, avez-vous dit, est-ce que vous pensez que les choses pourraient évoluer ?
Alors écoutez, si les choses évoluent, justement, ces organismes de veille ne manqueront pas de nous donner ces indications. Et à ce moment-là, on mettra en œuvre donc, les prescriptions qui nous seront imposées par l'État.
Merci Christophe Guéna d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Dans les écoles, partout en France, les élèves qui ont passé des vacances dans les régions contaminées sont invités à rester chez eux pendant 14 jours. Les parents peuvent aller travailler en portant un masque. Encore une fois, la France est toujours épargnée pour le moment, mais 30 pays au total sont touchés et l'OMS n'exclut pas le risque de pandémie.
La contagion gagne aussi les marchés financiers. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
On peut même parler de vente panique ce matin sur les places boursières.
Oui, tout à fait. Jusqu'ici, les marchés boursiers mondiaux avaient plutôt sous-estimé la gravité de la crise, comme s'ils ne voulaient pas voir les signaux négatifs qui pourtant s'accumulent depuis des semaines, avec ces problèmes d'approvisionnement dans l'électronique, l'automobile, la chute du trafic aérien, du tourisme, des usines à l'arrêt, etc. Mais on a atteint maintenant un point de bascule avec la multiplication des foyers d'infection, d'où ce changement de pied complet des marchés financiers, avec des baisses de 4 à 5% hier à Paris, Francfort ou Milan, et encore ce matin à Tokyo et à Shanghai.
Et alors dites-moi Nicolas, est-ce que ça pourrait déclencher une crise financière de l'ampleur de celle de 2007?
C'est la grande crise en effet, car il faut avoir en tête que les marchés boursiers ont très fortement monté ces dernières années. Avant cette affaire du coronavirus, certains évoquaient même un risque de bulle. Nous l'avons dit ici à plusieurs reprises. Il y a donc un risque de décrochage sévère en effet, alimenté par un fait objectif, c'est que l'économie ralentit. On le voit à travers deux choses, la chute de la demande mondiale de pétrole et la baisse du nombre de conteneurs transportés par les compagnies maritimes. On voit ainsi que les investisseurs du monde entier se reportent sur des valeurs refuges comme l'or. C'est bien le signe d'une planète financière extrêmement fébrile. Alors, il existe bien un vaccin, c'est l'argent des banques centrales, mais comme la plupart des vaccins, ça n'est pas efficace à 100% pour éviter les crises.
Merci, c'était l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.
Europe 1, il est 7h06.
Le coronavirus à l'origine d'une polémique en pleine campagne municipale à Paris.
Oui, c'est ici même, dans ce studio, au micro de Sonia Mabrouk, que la candidate Agnès Buzyn a accusé hier la maire de Paris, Anne Hidalgo, de ne pas avoir préparé l'arrivée du virus dans la capitale.
Il n'y a pas eu de contact avec la mairie de Paris lorsque j'étais au ministère. Nous avons préparé essentiellement le système de santé et sa résilience.
Anne Hidalgo qui répondra directement tout à l'heure dans ce studio à 8h20. Dès hier, c'est son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, qui a riposté preuve à l'appui. Des lettres qui montrent comment la maire de Paris a préparé l'arrivée du virus en contact direct avec l'ancienne ministre Aurélie Herbomont.
Oui, une lettre datée du 31 janvier, signée de la main d'Anne Hidalgo et envoyée à Agnès Buzyn en personne. La maire de Paris demande à la ministre de la Santé une clarification des recommandations concernant les personnes revenant de Chine et ne présentant pas de symptômes d'infection. Un courrier auquel Agnès Buzyn répond le 12 février, courrier signé là aussi par la ministre qui remercie vivement Anne Hidalgo de sa mobilisation. De quoi prouver qu'Agnès Buzyn réécrit un peu l'histoire lorsqu'elle assure qu'il n'y a pas eu de contact avec la mairie de Paris quand elle était au ministère. Il faut dire qu'il y a 15 jours, les deux femmes n'étaient pas encore rivales. Depuis, elles sont en campagne l'une contre l'autre. Et aux accusations d'Agnès Buzyn, Anne Hidalgo a choisi de répondre en utilisant l'impitoyable placard à archives.
Une campagne agitée, très féminine donc. À Paris, on avait déjà Rachida Dati, Anne Hidalgo, on a donc désormais Agnès Buzyn. C'est le fait politique du jour avec vous ce matin, Mickaël Darmon, bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que cette troisième femme pour un seul fauteuil, ça fait bouger les lignes?
En tout cas, il est clair qu'Agnès Buzyn est arrivée avec le virus de la politique. Pour sa première salve, on l'a vu, contre Anne Hidalgo, elle fait la jonction entre son dossier, le coronavirus de la santé, et la course pour Paris, en accusant la mairie, on l'a vu, de ne pas être préparée. Et réplique du camp Hidalgo, Agnès Buzyn a menti. Eh bien, je peux vous dire que cette riposte a provoqué un grand soulagement dans l'équipe de l'ex-ministre où l'on craint qu'elle ne soit trop gentille. Il ne faudrait pas que cette qualité réelle devienne son point faible. Enfin, elle entre dans la bagarre, souffle un membre de sa campagne. De son côté, c'est Madame Dati qui l'accuse d'être une copieuse. J'apprends vite, c'est vrai, confie Agnès Buzyn en public. Elle répète, mon projet est central. En tous les cas, elle a au moins réussi d'emblée à centrer le débat autour d'elle.
Et au final, Mickaël, il y aura sans doute des alliances. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se profile?
Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une fusion a été envisagée ces derniers jours entre les listes Buzyn et Villani. Trop compliqué à cause des comptes de campagne et des factures engagées des deux côtés. Donc l'accord se fera au second tour. À droite, la situation pourrait devenir sensible entre les deux tours dans les arrondissements. En effet, des maires de droite pourraient être tentés et sont même tentés de passer des accords en contournant les consignes de la tête de liste Dati afin de pouvoir garder leur mairie. Un problème pour la maire du 7e qui se positionne bien à droite. À n'en pas douter, cette bataille de Paris, version 2020, fera date. Nouveau monde contre ancien monde, vélo contre voiture et un roman politique autour d'Hidalgo, Dati et Buzyn, dont le titre pourrait être Notre-Dame de Paris.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, éditorialiste politique à la rédaction d'Europe 1, à suivre notre enquête sur les vrais pouvoirs de la Cour des comptes. Vous vous posiez peut-être la question, quels sont les vrais pouvoirs de la Cour des comptes? Ces recommandations sont-elles suivies des faits? La réponse dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h11, le journal se poursuit. Mathieu Béliard, Carole Ferry. Qu'advient-il des cartons rouges et jaunes infligés par la Cour des comptes? C'est l'enquête d'Europe 1 ce matin avec vous, Olivier Samin, bonjour.
Bonjour Carole.
Alors ce matin, la Cour des comptes rend son rapport annuel. Comme tous les ans, il y aura sans doute des critiques et des recommandations. Et la question qu'on se pose ce matin, Olivier, c'est est-ce que ça sert à quelque chose?
Eh bien tous les ans, la Cour des comptes fait un pointage très précis des suites données à ces rapports. Elle regarde notamment si les organismes qu'elle a épinglés ont pris des mesures pour corriger le tir. En 2016, par exemple, elle avait formulé 626 recommandations. Qu'en est-il 3 ans plus tard? 75% ont été totalement ou partiellement mises en œuvre. Exemple, le transfert complet aux URSSAF de la collecte des cotisations des travailleurs indépendants. C'était une recommandation faite en 2016. Eh bien, ça y est, depuis le 1er janvier 2020, le transfert est accompli. A l'inverse, une réforme recommandée il y a 3 ans par la Cour qui n'a pas vu le jour, la réforme du logiciel de gestion des ressources humaines de l'éducation nationale, eh bien, ça débouche aujourd'hui sur un gâchis de plusieurs centaines de millions d'euros.
Ça, c'est le mauvais exemple, mais ce qu'on retient, c'est que dans l'ensemble, les recadrages de la Cour des comptes font mouche.
Ah oui, ils font mouche, d'abord parce que la Cour ne lâche pas les organismes qu'elle a contrôlés. Elle reprend ses contrôles, le cas échéant sur place, avec la menace d'un nouveau rapport, ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps pour EDF, pointé du doigt pour sa politique salariale. Et puis l'autre facteur, c'est la peur de la mauvaise publicité. Quand le grand public découvre les turpitudes de tel ou tel organisme, eh bien en interne, je peux vous dire que ça chauffe. Un exemple tout récent, le rapport en décembre dernier sur le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui a montré que certains anciens dirigeants se versaient des généreuses indemnités. Le docteur Pascal Charbonnel est élu à l'Ordre des médecins de l'Essonne. Il a été témoin du choc provoqué sur ses dirigeants nationaux par le rapport de la Cour.
Ce qu'ils ont pris en pleine figure, c'est l'exposition médiatique par rapport à ça. Mais je pense que ce qui serait bien, c'est que vous fassiez une enquête dans un an et qu'on voit où en est l'Ordre dans un an. Et moi, je fais le pari que l'institution aura été remise dans le droit chemin.
Alors, preuve de l'impact du rapport de la Cour, 3 mois plus tard, les pratiques ont déjà changé, nous dit-on, et les actuels dirigeants de l'Ordre ont porté plainte contre leurs prédécesseurs.
Merci Olivier Samin.
Quand vous écoutez de la musique, Mathieu, je sais que vous adorez ça. Est-ce que c'est plutôt en streaming, en téléchargement légal?
Toujours légal,
bien
c'est toujours
sûr,
légal.
Toujours légal. Ou sur CD?
Non, ben malheureusement, aujourd'hui, vous savez quoi? C'est sur YouTube.
Eh ben, oui. Eh ben écoutez, c'est la tendance qui devrait être confirmée hein, aujourd'hui dans le bilan 2019 du marché de la musique. Aujourd'hui, on écoute beaucoup plus en streaming que sur CD.
Et c'est clairement un secteur qui évolue en ce moment. Ces mutations, d'ailleurs, on va les raconter, on va s'arrêter un instant. Parce que c'est pareil dans la conception des clips vidéo. Écoutez bien, beaucoup moins travaillé désormais pour la télévision et de plus en plus pour le téléphone portable, ces clips vidéo.
Eh bien oui, puisque l'objectif justement, Mathieu, c'est d'avoir un maximum de vues sur YouTube. Et pour ça, les artistes n'hésitent pas à mettre les moyens, Angèle Châtelier.
Pour l'un de ses clips, le duo de rappeurs PNL a carrément loué un étage de la Tour Eiffel. Bilan, un an plus tard, 138 millions de vues sur YouTube. Angèle, elle, est allée jusqu'à recruter l'acteur star Pierre Ninet pour illustrer sa chanson « Balance ton quoi ». Tous ont en fait le même objectif, cumuler le plus de vues possible sur YouTube. C'est là que les jeunes consomment majoritairement la musique selon une récente enquête. Et c'est donc là que les carrières se font ou se défont, explique Mathieu Tessier, directeur artistique dans la maison disque Warner Chappell.
Un clip sur YouTube, il doit être vu, il doit être remarqué, il doit être différent. Avant, pour qu'un clip soit diffusé en télé, il fallait que ça soit positif, que ça soit compatible en fait avec le média télé. Internet permet beaucoup plus de liberté dans ce qu'on montre à l'image.
Il faut dire qu'avec les smartphones, les clips se regardent désormais n'importe où, dans les transports, au bureau, dans son lit. Certains d'entre eux sont même cadrés pour le format téléphone. Aurel San, par exemple, a filmé avec le sien pour le clip de son titre « Des fêtes de famille » en mode vertical. Résultat, 27 millions de visionnages à ce jour et un rappeur qui enchaîne les concerts à guichet fermé.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille.
Et on va parler de musique beaucoup aujourd'hui sur Europe 1. Entre midi et 14h, la France bouge. Carole Ferry, vous le disiez, on va avoir les bilans 2019 du marché de la musique. Eh bien, Raphaël Duchemin et toute l'équipe de la France bouge reçoivent le syndicat national de l'édition phonographique pour évoquer justement les innovations dans le domaine de la musique avec des startups justement qui font bouger le secteur. Moi, je me bagarre assez souvent avec mes enfants. Je souriais
qui
sur YouTube.
Trop leur
on
téléphone.
Ne regarde pas la musique, on l'écoute la musique. Alors maintenant, on comprend pourquoi avec Angèle Châtelier, avec le développement de ces clips pour smartphone. Carole Ferry, merci beaucoup. Un nouveau journal
merci.
À 7h30.